France Inter.
Aujourd'hui, l'écologie face aux classes populaires, raconté par
Éric Echiban, journaliste au Nouvel Obs,
et Jean-Baptiste Combi, sociologue à Nantes Université.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
C'est une histoire d'avant les réseaux sociaux, une fake news avant l'heure. Nous sommes en 1976, cet été-là, la France vote la grande loi sur la protection de la nature. Un texte qui place pour la première fois certaines espèces sous protection légale et parmi elles un reptile mal aimé, la vipère. Et c'est là que tout commence. Dans les campagnes, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Depuis toujours, on tuait la vipère comme un nuisible. Et voilà qu'à Paris, on décrète qu'il ne faut plus la détruire. Les paysans qui ont grandi avec la peur de ce serpent n'y comprennent rien. Qui a bien pu décider ça? Des bureaucrates, des écolos venus de la ville. Peu à peu, une rumeur se répand, ces écologistes fanatiques relâcheraient eux-mêmes des vipères par avion. Une pure invention, mais une invention tenace, reprise dans les cafés, jusque dans la presse locale. Elle durera près de 10 ans. Pour les sociologues, cette rumeur révèle le désarroi d'un monde rural déserté, sommé de se soumettre à des règles écologiques venues d'en haut. Et un demi-siècle plus tard, les rumeurs ont changé de forme, mais pas de fonction. Ceux qui rejettent le discours écologique ne le font pas toujours par indifférence à la nature, mais parce qu'il l'associe à une menace. Un rapport du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale montre le fossé entre ce discours dominant et la manière dont il résonne chez les plus modestes. Les politiques climatiques bousculent tout un imaginaire. Déplacement, logement, loisirs, ces normes qui ont structuré nos vies et nos rêves. Les vipères n'étaient qu'une rumeur, mais elles rappellent que la transition écologique ne se gagnera pas contre les classes populaires, ni sans elles. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Éric Echiman et Jean-Baptiste Combi, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Éric Echiman. Vous publiez « Au lien qui libère, les vipères ne tombent pas du ciel, justement. L'écologie au défi des classes populaires ». Et Jean-Baptiste Combi, vous avez publié l'année dernière « Écolo, mais pas trop » aux éditions Raison d'agir. Éric Echiman, pourquoi cette légende autour d'un lâcher de vipères raconte à elle seule finalement ces conflits de classes au sein de l'écologie ?
Elle a quelque chose de formidable, cette légende. C'est l'avion. C'est ce qui fait d'ailleurs que ça fait une rumeur, parce que si on avait dit qu'il y avait des lâchers de vipères, en plus il se trouvait qu'il y en avait, c'était d'ailleurs le point de départ de la légende, puisque juste pour compléter votre présentation, il y avait une dérogation qui permettait aux laboratoires pharmaceutiques de capturer des vipères, prendre le venin et les relâcher. Donc il y avait bien des lâchers de vipères, mais c'était pas des écolos et c'était pas par avion. Le fait que ça soit par avion, ça dit bien la question du rapport hiérarchique, la verticalité. C'est quelque chose qui arrive d'en haut, qui tombe de Paris, qui tombe du ciel, et l'écologie a ceci de spécifique, de singulier, qu'elle réveille, qu'elle réactive, qu'elle remobilise des rapports de hiérarchie sociale et culturelle. Parce que l'écologie, c'est aussi une science, que c'est une pratique, un mouvement politique et des convictions qui sont assises sur des faits scientifiques et qui se présentent souvent sous la forme, avec les modalités du discours scientifique, donc un discours académique, avec un rapport au savoir, un rapport aux mots, un rapport aux catégories, qui renvoie à une certaine position dans la société, qui est la position des sachants, de la bourgeoisie intellectuelle, c'est des concepts, des catégories que j'emprunte à Jean-Baptiste Combi, et qui, quand ils sont reçus par des classes populaires, pour qui le rapport académique, c'est souvent le souvenir d'une expérience scolaire qui n'a pas été forcément agréable, voire plutôt qui est l'occasion d'humiliation. Et ben, d'un coup, l'écologie n'est plus n'est plus perçue comme le souci commun de souci pour un bien commun qu'est la nature, que ces gens ont autant, mais le rappel de il y a nous qui savons et vous qui ne savez pas. Et à partir de là, ça bloque le système.
Jean-Baptiste Combi, est-ce que cette fracture entre les classes dominantes et les classes populaires dans le domaine de l'écologie, elle existe depuis longtemps ?
Je pense qu'elle est assez ancienne, notamment pour la raison que évoquait Éric, c'est-à-dire que cette proximité entre les mondes de la culture, du savoir et l'écologie, elle est ancienne. Et du coup, Je pense que les classes populaires ont toujours été plutôt à distance de ces combats-là, même si c'est variable sans doute selon les périodes, et que sans doute dans les années 60-70, c'était peut-être moins le cas qu'aujourd'hui, puisqu'il y a eu un mouvement très fort dans les années 90 de technicisation de l'écologie.
Ouais. Éric Eschiman, vous parlez d'un constat fort, c'est-à-dire le rejet du discours écologique par une partie des classes populaires. Qu'est-ce qu'il dit en fait de notre époque, ce rejet exactement ?
Alors, d'abord, juste pour le constat, ce rejet, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui auraient envie de polluer, de jeter les poubelles par la voiture, de jeter les sacs en plastique. C'est souvent des gens qui ont un rapport à la nature de proximité. Et par ailleurs, c'est quand même des gens qui ont des bilans carbone, si on se limite à la question climatique.
Qui sont faibles.
Qui sont plus faibles en moyenne que les gens des centres-villes qui leur font la leçon. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est sûrement, il y a une autre chose, l'enjeu, c'est la, comment dire, la photographie, là où ça se voit, c'est dans les élections. Ce qui est terrible avec ce rejet de l'écologisme, plutôt, souvent, dans les enquêtes, les gens disent, ont des pratiques écologiques et disent, ah, mais moi, je fais pas d'écologie. Hein. Alors même qu'ils ils font leur potager, ils roulent à vélo, ils réparent leur voiture, ils construisent eux-mêmes, etc. Moi, je fais pas d'écologie. Et ce rejet se traduit dans les urnes et par un vote assez massif pour les formations qui ont fait de l'anti-écologisme un fanion.
Oui.
Et évidemment, c'est principalement le Front National, enfin le Rassemblement national aujourd'hui. Et c'est en ça que c'est grave. C'est en ça que c'est grave. Parce que même si on peut dire « Non, mais ces gens, en fait, ils sont écolos, etc. », le rejet du discours écologique tel qu'il se donne à entendre aujourd'hui a des effets catastrophiques,
ouais.
C'est-à-dire ce vote RN, dont on voit qu'après, ça a des effets sur les lois qui sont prises. On voit tout ce qui est défait aujourd'hui, les 48 reculs écologiques enregistrés depuis le début de l'année. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut que ce malentendu avec les classes populaires soit dissipé. Et donc, ce que ça dit notre époque, c'est qu'il y a un malentendu.
Est-ce que c'est un impensé encore, même si c'est un de vos sujets d'études, Jean-Baptiste Combi, sur ce rejet, cette fracture, encore une fois, entre les classes populaires et l'écologie ?
Un impensé de la part au sein des mouvements écologistes.
Oui,
alors
absolument.
De moins en moins, hein, c'est-à-dire que depuis quand même le mouvement des Gilets jaunes, les choses ont pas mal changé. Mais il y a quand même encore beaucoup, à comprendre, et notamment comprendre que les classes populaires ne forment pas un bloc homogène. Ça, je crois que c'est très important parce que ça, de là découle tout un tas de considérations intellectuelles et politiques. Ce que montrent toutes les enquêtes de sciences sociales sur les classes populaires, c'est qu'elles sont de plus en plus fragmentées. Et année après année, cette fragmentation s'accroît. Et ce qui est terrible, c'est que l'écologie dominante, l'écologie morale, l'écologie technologique, l'écologie marchande, en fait, elle vient accentuer des fractures au sein des classes populaires, là où elle devrait produire plutôt de la conscience collective et de l'union. En fait, non, elle accentue des fractures entre une partie des classes populaires qui adhèrent plutôt à cette écologie, parce que c'est une fraction des classes populaires qui mise sur l'école pour réussir socialement, et une autre fraction des classes populaires qui va plutôt miser sur la réussite économique, la bonne affaire, la consommation de masse, etc., pour s'élever socialement. Et là, il y a un fossé qui se creuse.
Et la nature, d'ailleurs, de cette fracture, comment vous la qualifiez, Jean-Baptiste Combi ? C'est une fracture très culturelle, finalement, plus qu'économique ?
C'est une fracture qui est... elle est sur les deux, c'est-à-dire qu'elle est liée aux modalités d'ascension sociale. C'est-à-dire qu'on a affaire à des groupes dans les classes populaires qui aspirent à s'élever socialement. Simplement, ils empruntent des voies d'ascension, des ascenseurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes.
Mmh.
Et l'écologie peut être un ascenseur dans une partie de ces groupes-là. Donc, c'est vrai que quand on étudie tout ça, ça fait vraiment apparaître une société avec deux versants, un versant culturel et un versant économique, hein, du haut et du bas. Et j'y reviendrai sans doute tout à l'heure, mais ça oblige à penser la société non seulement verticalement, comme on a tendance à le faire, hein, les riches, les pauvres, le haut, le bas, les dominants, les dominés, mais surtout à penser aussi peut-être beaucoup plus horizontalement entre le versant culturel et le versant économique.
On en reparlera évidemment sur les façons de lutter contre cette fracture tout à l'heure avec vous, Éric Eschiman.
Oui, pour réagir. Je voulais un petit mot toujours sur ce constat. Les travaux des sociologues, je pense notamment à Benoît Coquart, qui est un collègue de Jean-Baptiste Combi, racontent quelque chose de fascinant sur les zones rurales. C'est vraiment les classes populaires des zones rurales et périurbaines, là où la voiture et le pavillon sont centrales dans l'organisation de votre vie et la façon dont vous voyez vous-même. Il y a une demande d'autonomie. Il y a une valeur d'autonomie très forte, et c'est d'ailleurs ce qui explique...
De la part de qui ?
De la part des classes populaires, et c'est ce qui explique le vote RN. Coquart le raconte bien, on vote RN parce qu'on n'est pas des assistés, on se débrouille tout seul. Se débrouiller tout seul est une valeur très profonde qui permet d'être admis dans la communauté. Or, ça engage des pratiques écologiques, par exemple. Réparer sa voiture, par exemple, construire soi-même sa maison. L'écologie, lorsqu'elle vient dire « moi, je vous donne des sous », si vous faites appel à un artisan qualifié RGE pour faire l'isolation thermique de votre maison, il n'y a plus d'autoconstruction, on ne fait plus soi-même, on perd l'autonomie. Quand l'écologie dit « je vous donne de l'argent pour acheter une voiture électrique avec des tas de logiciels que vous ne pouvez pas réparer », on perd l'autonomie. Donc là, ça c'est une chose aussi que l'écologie a perdue. Au début, dans son histoire, l'écologie c'était une promesse d'autonomie. Et c'est devenu, c'est pareil que les réglementations sur vie père, c'est devenu des normes qui tombent d'en haut. Donc il faut que l'écologie retrouve cette dimension de pratiques autonomes grâce auxquelles elle va pouvoir renouer ou nouer une alliance avec ces classes populaires.
Vous parliez des voitures, justement, un exemple emblématique, les ZFE, ces zones à faible émission pour lutter au départ contre la pollution atmosphérique dans les villes, et qui illustre bien la difficulté de concilier à la fois la justice climatique et la justice sociale. Pour en parler, on va écouter cet extrait d'un reportage de France 3 à Villeneuve-les-Maguelones, c'était en 2022.
Vous avez pris en otage la population, la mettant devant le fait accompli.
On prend toujours les devants pour des conneries, ça c'est sûr.
Et là, je vais acheter cheval et le carriole, je vais venir à cheval. Quand on n'a pas les moyens, comment vous voulez faire? J'ai vécu, ils ont plus de 20 ans, comment vous voulez faire?
On est conscient que le problème existe, il faut arriver à trouver une solution. Mais est-ce que vous croyez que c'est sérieux quand on nous parle de ça et quand on voit ce qui se passe sur les mers, sur les océans, dans le ciel et tout? Je veux dire, qu'est-ce que c'est un mec qui pédale en vélo devant tout ça? C'est ridicule.
Sur les 11 communes de cette première phase, Villeneuve-les-Maguelones est la seule à ne pas avoir le tram. Sans projet global, il paraît bien illusoire de penser que le remplacement de la voiture thermique par une voiture électrique suffira à nous sortir du réchauffement climatique.
Jean-Baptiste Combi, pour réagir à ce qu'on vient d'entendre avec ces ZFE, donc ces zones à faible émission, dispositifs qui visaient, hein, je parle au passé, à réduire la pollution urbaine, puisqu'elles ont été supprimées du projet de loi de simplification économique, même si plusieurs villes essayaient quand même de les maintenir. Qu'est-ce que ça raconte justement de cette fracture sociale?
Mais ça raconte que les membres des classes populaires sont éloignés des lieux où se prennent les décisions politiques et que, en matière d'écologie, mais pas seulement, elles sont souvent celles auxquelles on demande les groupes auxquels on demande le plus d'efforts et qui sont le plus stigmatisés. Ça, c'est un premier point. Mmh. Un deuxième point que je trouve très intéressant dans l'extrait que vous avez montré, c'est quelque chose qu'on retrouve pour le coup en tout point des classes populaires, c'est cette idée que, de toute façon, eux, ils ont bien compris dans les mondes populaires que c'est pas les petits gestes des petites gens qui allaient sauver la planète. Et que le problème, c'était les grands et c'était les gros. Et je pense que là, il y a en germe une conflictualité sociale qui devrait être sans doute beaucoup plus travaillée par les mouvements écologistes.
On y reviendra sur ces petits gestes. Éric Eschiman, comment on peut améliorer la qualité de vie comme la qualité de l'air, parce que c'est quand même un enjeu majeur, sans évidemment faire flamber les inégalités, parce que c'est au cœur de ce problème avec les ZFE?
Alors, juste d'abord sur les inégalités environnementale, on a beaucoup dit que le réchauffement climatique, c'était valable pour tout le monde. Vous savez, il y a cette métaphore du bateau. On est tous sur le même bateau. Alors, d'abord, les gens qui emploient cette métaphore feraient bien de regarder le cas du Titanic, parce que si ils étaient tous à bord du Titanic, le taux de sauvetage dans les premières classes et dans les troisièmes classes n'est pas du tout le même. Donc, première chose, les effets du réchauffement climatique n'auront pas les mêmes effets. Le réchauffement climatique n'aura pas les mêmes effets selon que vous ayez les moyens d'avoir des appartements agréables, climatisés, spacieux, aérés, de vous mettre à la campagne, de vous déplacer dans une voiture, d'aller dans un centre commercial. On vit très bien par plus 40 degrés dans les pays du Golfe parce qu'il y a énormément d'argent. C'est pas le fait qu'il fasse chaud ne met pas tout le monde en danger. Il va mettre en danger ceux qui n'auront pas les moyens de vivre comme ça. Ça, c'est la première inégalité. Je me permets juste de pointer les deux autres parce qu'on les a pas souvent en tête. La deuxième inégalité, c'est la contribution au réchauffement climatique. Que quand vous êtes plus vous êtes riche, plus vous émettez par vos pratiques, et surtout plus vous avez un pouvoir de décision qui fait qu'on est dans une société qui émet beaucoup. Et les deux autres qu'a dit Jean-Baptiste Smith qui sont très importantes, c'est que plus vous êtes pauvre, moins vous avez voix au chapitre dans les discussions, et plus vous êtes pauvre, plus c'est sur vous qu'on va faire peser les mesures. Alors, sur le cas des ZFE...
Comment on répond à ça? Parce qu'il y a la problématique de la pollution atmosphérique, voilà, la question des inégalités sociales.
Absolument. Avant de décider, avant d'interdire, on fixe un objectif collectif commun sur 15 ans, disant voilà, dans 10 ou 15 ans, il n'y aura plus de voitures thermiques. Comment on fait? Alors bah, d'abord, on peut commencer par faire des discussions démocratiques, et puis il y a des outils qui existent. Bah, déjà, on peut commencer par construire le tram dans la ville dont on vient d'entendre parler, ouais. avant d'interdire les voitures critère 3, catégorie 3. On peut mettre en place ce qu'on appelle le leasing social, qui permet d'accéder aux gens qui ont vraiment besoin d'une voiture, d'accéder à une voiture électrique pas chère. Si on avait commencé par rendre possible l'accès à des voitures électriques pas chères, il n'y aurait pas eu ce mouvement-là. Donc, en fait, l'interdiction, elle vient à la fin. Elle ne doit pas être au début.
Et pour ajouter sur cet exemple de la voiture, il est intéressant parce qu'il nous ouvre un peu les imaginaires et notamment, il nous montre qu'on peut aussi sans doute arriver à défaire ce qui a été fait. L'histoire environnementale française a montré, dans plusieurs livres, on a ces histoires-là. Il y a 100 ans, l'idée de la voiture en ville suscitait des réactions de contestation énormes aux États-Unis et en Europe de l'Ouest. C'est incroyable. Il y a 100 ans à peine, les gens ne voulaient pas entendre parler de la voiture en ville. Et aujourd'hui, on voit que ça s'est inversé. Mais du coup, si c'est inversé dans un sens, on peut aussi sans doute inverser les choses dans l'autre sens.
Bah, mais du coup, j'ai envie de compléter, pardon, avec l'histoire du tramway, qui est cette histoire géniale, enfin, qui est le détail de ça. C'est-à-dire que les gens circulaient en tramway, et le retrait des tramways, c'était une décision politique, voire même influencée par les lobbies naissants de l'automobile qui avaient besoin de trouver des marchés. Et il fallait que les gens aient besoin d'automobile. Il y avait pas, c'est pas dans les gènes de vouloir une automobile et encore moins un SUV.
Allez, on poursuit la discussion dans un instant et on verra comment essayer de reconstruire des alliances précisément entre l'écologie et les classes populaires, sujet majeur aujourd'hui, surtout à la veille d'échéances politiques importantes. Et vous pouvez témoigner et nous rejoindre sur la page de l'émission franceinter.fr et nos réseaux sociaux. Et puis pour vos messages vocaux, vous pouvez également nous laisser ces messages sur l'application Radio France. A tout de suite.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Je vois bien cette France, on veut poser les Parisiens, oui, aux provinciaux,
les
écolos,
pardon, monsieur
aux agriculteurs,
mais,
etc.
Mais ça me fait rire.
Allons-y comme ça, on va aller tous dans le mur, moi je vous le dis.
Non mais ça me fait rire, monsieur Hulot.
Ça me fait rire. Je suis désolé de vous dire,
C'est ce que je vous dis. Vous n'avez aucune conscience de la réalité des choses. Est-ce que vous savez ce que c'est de vivre avec 1200 euros par mois, de payer un loyer 450 euros ?
Excusez-moi, mais j'ai aussi connu une aisance économique et je n'ai pas perdu de cela de vue, croyez-moi. Mais ne mettez pas tout ça simplement sur le dos de l'écologie.
Voilà, dialogue difficile pour Nicolas Hulot. C'était en novembre 2018, face à Benoît Gilou, porte-parole des Gilets jaunes. Nicolas Hulot, deux mois après avoir démissionné de son poste de ministre de l'écologie, pour le resituer. L'écologie face aux classes populaires, on en parle avec vous. Éric Eschiman, journaliste au Nouvel Obs, et Jean-Baptiste Combi, sociologue. Je voudrais avoir votre réaction sur cet échange, parce qu'il raconte aussi une histoire que vous avez suivie tous les deux de très près, celle du mouvement des Gilets jaunes, qui lui aussi a montré à quel point les écologistes ont été capables d'une sorte de mépris de classe. Par rapport à ceux qui manifestaient sur les ronds-points. Éric Eschiman.
Moi, je plaide coupable. Ma première réaction, quand j'en avais entendu parler, avant la première manifestation, c'est de me dire, mais ils sont fous ces gens, pourquoi ils veulent rouler en voiture, pourquoi ils sont contre la voiture électrique. Et il m'a fallu un petit peu de temps, ça a été assez vite, et d'ailleurs les échanges à l'époque avec Jean-Baptiste Convy m'ont aidé, mais je pense qu'on était dans cette idée l'écologie, c'était normal de vouloir passer à la voiture électrique, comment pouvait-on s'y opposer? Et on a mis un peu de temps à détricoter tout ça. Et moi, je crois que maintenant, c'est bien acquis dans le mouvement écologiste. Mais il faut savoir qu'on a ce réflexe-là, ce qui est normal, qui est lié à la position, à l'endroit où on est dans la société.
Ouais, Jean-Baptiste Convy, vous, en tant que sociologue, quel regard vous avez porté à ce moment-là, en 2018, sur le mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que vous êtes tombé dans le même travers, finalement?
Peut-être dans une toute première réaction, sans doute plutôt une forme d'effarement ou d'étonnement, voilà, parce que ce qu'on racontait de ce mouvement dans l'image qu'on voulait en donner contrastait avec ce qu'on observait dans les enquêtes. Donc, du coup, moi, c'est plutôt j'ai essayé de regarder de plus près, essayer de comprendre, et effectivement assez vite, en lisant aussi ce qu'avaient pu faire écrire certains collègues, comprendre qu'en fait, il s'agissait pas du tout d'un rejet de la crise écologique. écologique, mais d'une certaine écologie, une écologie qui était profondément injuste, perçue comme telle, et qui du coup suscitait des inquiétudes réelles, et aussi un sentiment de disqualification, de honte, de dévalorisation de la part de ces, de ces gilets jaunes.
Mais est-ce que la fracture s'est agrandie après justement les gilets jaunes, de ce point de vue de notre sujet aujourd'hui, sur les classes populaires versus les écologistes? Est-ce que vraiment il y a eu une compréhension, comme le disait Eric Eschiman, ou finalement ça n'a rien arrangé du tout?
Alors, je ne sais pas si elle s'est agrandie, en tout cas je ne suis pas certain qu'elle se soit résorbée, parce que ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus parler d'écologie sans parler de justice. Dès que quelqu'un parle d'écologie, justice il rajoute sociale. Justice sociale derrière, justice climatique, justice environnementale, ça on l'a à toutes les sauces. Et donc, il y a comme ça tous ces récits de la transition juste qui ont fleuri depuis donc maintenant 7 ans. Sauf que ces récits-là, ils ont deux impensés, selon moi, qui sont très importants et qui font qu'il y a, c'est vrai que je disais qu'il y a encore des choses à comprendre et des progrès à faire, sans doute. Première impensée, c'est qu'ils font le constat que l'écologie peut accentuer ou créer de nouvelles inégalités. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'il faut faire de l'écologie qui n'accentue pas les inégalités existantes ou qui n'en crée pas d'autres. Une écologie qui vient de réduire les inégalités. Mais ces récits-là n'interrogent jamais l'origine, la formation de ces inégalités. D'où viennent ces inégalités? On a l'impression qu'elles tombent du ciel, ces inégalités, un peu comme les vipères, vous voyez. Et en fait, non. Elles ne viennent pas du ciel, elles viennent justement d'une histoire des rapports de concurrence sociale entre différentes classes. Voilà. Et donc, du coup, c'est aussi poser cette question-là qui n'est pas posée. Et la deuxième impensée, rapidement, on en reviendra peut-être après, c'est que ces récits n'ont jamais posé la question de l'ampleur des changements dont il est question. C'est-à-dire qu'on dit souvent, oui, il faut être à la hauteur de l'enjeu, on n'est pas assez à la hauteur de l'enjeu, mais on s'interroge jamais sur c'est quoi cette hauteur, en fait. Qu'est-ce qu'on a devant nous, hein? Et je pense que ce qu'on a devant nous, c'est plus un Himalaya qu'une colline. Voilà.
Eric Eschiman.
Alors, l'épisode des Gilets jaunes, et on le voit dans le dialogue avec Hulot, ce qui est profondément injuste dans la taxe carbone, c'est que ça individualise la question écologique et l'effort, entre guillemets, à faire. Et d'ailleurs, le terme d'effort, le terme de sobriété, il y a tout un vocabulaire, la prise de conscience, qui est un peu matinée comme ça de christianisme, et le christianisme a sa valeur, mais ça peut pas faire une politique, et ça, vraiment, ça met en tension. Ça individualise, ça culpabilise, ça dit aux gens, c'est toi, avec tes petits bras, qui va pouvoir arrêter tout seul de manger la viande, arrêter de polluer quand tu vas emmener tes enfants à l'école ou que tu vas au travail.
Donc c'est la politique des petits gestes, quoi.
C'est la politique des petits gestes, c'est la politique des comportements, même des modes de vie. Alors on dit, il faut changer nos modes de vie. Alors, des gens qui ont un peu de marge de manœuvre financière, économique, peuvent se dire, ok, je passe au train, c'est plus cher, je passe au vélo, parce que moi, mon corps, dans la journée, il est devant un ordinateur, donc je peux faire deux fois 8 ou 10 kilomètres. Mais quand votre corps, il est usé par le travail, le vélo, bah, ça n'a pas la même signification. Quand vous n'avez pas le temps de cuisiner et que vous avez des budgets hyper contraints, la viande, c'est la protéine la plus efficace, la plus rapide à cuisiner, et la moins chère. Donc, en fait, il faut sortir de cette idée que c'est les modes de vie, que c'est individuel, que c'est les gestes, les comportements, tout ce vocabulaire là un peu psychologisant, ce qui fait qu'on pollue, ce qui fait que quand je me lève le matin pour aller au travail, pour emmener mes enfants à l'école, etc., c'est pas un choix personnel, c'est un système socio-technique organisé, et c'est ça qu'il faut changer.
On va en parler justement, on va écouter Jean-Marc Jancovici, l'ingénieur, c'était en août 2022, il évoquait précisément ce sujet-là.
Les petits gestes, ça marche ou pas?
On peut pas faire des grosses économies avec des petits gestes. Donc si on veut faire des grosses économies, il faut faire des gros gestes.
Mais comme vous nous dites, il faut arriver à zéro.
Où sont les gros gestes chez les Français? Ils sont dans les déplacements. Donc débrancher le Wi-Fi, ok, c'est bien, mais enfin, partir en vacances en train, c'est mieux. Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. Il faut bien voir que les gros gestes auxquels il faut appeler les Français, ça concerne les transports, ça concerne le chauffage, ça concerne l'industrie. C'est ça, les gros gestes en ce qui concerne l'énergie. Débrancher le Wi-Fi, ça fait partie des petits gestes.
Jean-Baptiste Combi, réaction aussi sur ce reportage interview sur France Info, donc en 2022, sur la question des petits gestes qui finalement occultent les vrais problèmes quand même.
Oui, et en même temps, cette question des petits gestes, il faut la prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que c'est un peu ce qui explique le titre du livre « Écologie, mais pas trop, écolo, mais pas trop ». C'est que tout le monde, aujourd'hui, a compris qu'il était de bon ton de se dire écolo, mais pas trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tout ce regard un peu dénigrant, méprisant, qui est porté sur les petits gestes, ça ne serait que des petits gestes. Oui, les petits gestes, c'est bon, vous travaillez sur les petits gestes, mais c'est pas important. En fait, ce qu'on observe, c'est que ces petits gestes, pour la plupart, enfin la grande majorité des enquêtés, demandent de grands efforts. Et donc du coup, les gens, ils se disent, ok, on nous demande de changer, ou il faut penser le changement. La pensée écologique, c'est une pensée du changement. Il faut transformer, transitionner, muter, bifurquer, etc. Mais en fait, nous, on a essayé à notre petite échelle chez nous, et ça nous a coûté beaucoup. Donc on ne voit pas comment on pourrait y arriver.
Donc attention au mépris qu'on pourrait aussi témoigner. C'est-à-dire en stigmatisant aussi ces petits gestes.
Ouais, voilà. C'est-à-dire, en tout cas, il faut les penser et faire tout, parce qu'en fait, il faut imaginer que cette morale écologique qui encourage aux petits gestes, elle est très puissante depuis les années 2005-2010, deuxième partie des années 2000. Mm-hmm. C'était l'avènement de l'éco-citoyennisme. Ça avait pris des proportions pas possibles. Hein. Rappelez-vous, Evelyne Delia, tous les soirs, dans ses bulletins météo, devant 8 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, nous racontait les bons et les mauvais gestes pour la planète. Enfin, c'est pour donner l'ampleur, quoi. Ouais. Donc, du coup, forcément, quand les gens ils pensent écologie, ils pensent petits gestes. Déjà, il faut dire que c'est à partir de là, c'est le support à partir duquel ils vont se construire un raisonnement, une vision de l'écologie. C'est bien souvent à partir de ça. Et qu'est-ce qu'ils constatent ? Ils constatent l'inertie de leur style de vie. Ils constatent que c'est dur de changer durablement. Je l'ai fait un peu, mais chasser le naturel, il revient au galop. Je le fais quand je peux, voilà. Et après, alors, par contre, tout ça, ça prend des significations et des tournures très différentes selon où on se situe dans l'échelle sociale, oui. Notamment entre le haut et le bas de l'échelle sociale, pour le coup.
Éric Hichimann, comment on remet l'égalité, parce qu'on peut appeler ça égalité, justice sociale, comme on veut, mais au cœur du projet écologique aujourd'hui. Parce que même si tout le monde, effectivement, utilise le terme aujourd'hui, bah, c'est quand même une idée intéressante à creuser. Hein.
L'idée de...
L'égalité.
L'égalité, elle est absolument centrale.
Et la justice.
Et la question, puisqu'on partait des petits gestes, c'est que les petits gestes donnent une fausse impression d'égalité. Tout le monde va faire des petits gestes, donc on est tous dans le même bateau, mmh. On est tous à égalité. Or, les petits gestes n'ont pas le même... poids, non, bah, le même prix pour chacun, selon l'endroit où on est dans la société, les moyens dont on dispose. Donc c'est pour ça que remettre de l'égalité dans l'écologie, c'est comprendre qu'en fait, la pollution, les atteintes à l'environnement, c'est déjà un rapport d'inégalité. C'est déjà même un rapport de domination. Il y a ceux qui polluent et ceux qui sont pollués. Et surtout, de façon plus juste encore, il y a ceux qui ont construit un monde dans lequel on est un peu tous obligés de polluer. Et parce que dans ce monde, et ben on construit des routes, on consomme du pétrole, on consomme des voitures à des tailles délirantes. Et ça fait du profit. Mmh. Et de l'autre côté, il y a des gens qui se retrouvent obligés. Le marché de la voiture, aujourd'hui, vous n'avez pas de petite voiture électrique. Et vous n'avez même plus de petite voiture, vous n'avez pas de voiture réparable. Enfin, si vous voulez vivre modeste, si vous voulez acheter une voiture à un prix modeste, vous ne pouvez plus. Donc le système est organisé pour que vous soyez obligés d'acheter des grosses voitures polluantes. Donc la première inégalité, elle est là. C'est une inégalité de pouvoir. Donc il faut remettre la main sur les structures qui polluent. Par exemple, je reprends l'exemple, le marché de l'automobile. C'est pas normal que le marché de l'automobile ne propose que des véhicules qu'on a tous en tête, les SUV, qui ont des tailles et des impacts environnementaux délirants. Il faut obliger, et il y a des moyens, les constructeurs à produire des voitures plus petites. Voilà, donc c'est l'égalité passe par un rapport de pouvoir, une épreuve de force. Oui. Avec ceux qui nous mettent en situation de polluer.
On va poursuivre dans la dernière partie sur justement la lutte contre ces fractures. Juste un mot, Jean-Baptiste Combier, avant la pause. Comment vous expliquez que les écologistes n'aient pas anticipé du tout cette fracture, précisément ?
D'une part, parce que il n'y avait pas forcément beaucoup de connaissances permettant de la voir venir, notamment en sciences sociales, et c'était encore assez frémissant. Et il y a notamment assez peu de données, il y en avait, hein, mais pas tant que ça, sur ces questions d'inégalité environnementale. Et du coup, cette question des inégalités, de l'injustice environnementale, en France, elle était complètement éclipsée du logiciel écologiste. C'est assez terrifiant quand on retourne, quand on regarde. Et puis par ailleurs, ça parle aussi de la position dans l'espace social de ces militants écologistes, hein, qui appartiennent plutôt à la bourgeoisie culturelle, petite bourgeoisie culturelle, dont on aurait pu penser que l'écologie allait la ramener vers la classe populaire. En fait, il s'est passé tout l'inverse. En fait, elle s'est appuyée sur l'écologie pour essayer de se hisser encore socialement. Et donc, au lieu de tourner le dos au champ du pouvoir et au pouvoir de la bourgeoisie, ben,
elle l'a incarné plus que jamais.
Ouais, s'en sont rapprochés, c'était fâcheux. Et du coup, de remettre en avant ces questions d'injustice environnementale, l'injustice écologique, c'est le cumul de ces différentes inégalités dont Éric Hichimann a parlé, et bien de remettre ça déjà beaucoup plus sur le devant de la scène écologiste, c'est un premier pas, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir rétablir des stratégies afin de construire des alliances nous permettant de construire un rapport de force afin de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire transformer les institutions sociales.
Et bien justement, ces stratégies, ces transformations, on va en parler dans un instant, et puis vous réagirez bien sûr et vous commenterez les messages qui arrivent déjà sur cette question de l'écologie et des classes populaires sur France Inter.
France Inter. La Terre au carré.
L'écologie, c'est avant tout lutter. Il y a la question de la libération. Voilà, moi, je n'aspire pas à une écologie de la protection de la Terre. Il y a toute une partie de l'humanité qui ne peut pas protéger la Terre parce qu'elle n'y est pas, sur cette Terre ravagée, elle n'y est pas légitime. Et donc, il s'agit d'abord de la libérer d'un système capitaliste, d'un système colonial. Ça permet aussi d'inscrire cette écologie dans les luttes de libération anticoloniale. Et ça permet aussi, donc, à des populations non blanches, immigrées, de venir avec cet héritage-là en écologie. Elles ne viennent pas sans rien.
La voix de la politologue Fatima Ouassak, c'était dans La Terre au Carré d'ailleurs en mai dernier, l'écologie face aux classes populaires avec vous. Éric Eschiman, journaliste au Nouvel Obs, Jean-Baptiste Combi, sociologue. Je voudrais vous faire réagir à ce que vient de dire Fatima Ouassak et vous poser d'abord peut-être une question, Éric Eschiman, puisque Fatima Ouassak parlait en particulier des quartiers populaires. Est-ce que la question des classes populaires rejoint celle des quartiers populaires ?
Alors, elle le rejoint parce que les quartiers populaires où habitent notamment des personnes racisées font partie des classes populaires. Mais, et c'est ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure, mais là on peut le détailler en montrant un exemple, sur la question des relations à l'environnement, les classes populaires des zones périurbaines et rurales n'ont pas du tout le même rapport à l'écologie que les classes populaires des quartiers populaires, pour la bonne raison que la voiture... et le pavillon n'y occupe pas, dans les quartiers populaires, la même centralité. La voiture, c'est vraiment un sujet essentiel quand vous êtes à la campagne, quand vous êtes à Bondy, à Montreuil, c'est important, mais ça n'a pas la même centralité. Ça, c'est le premier point. Donc, clairement, d'ailleurs, il n'y a pas le même rejet, il y a plutôt une indifférence. Et donc, clairement, ce sont deux sujets qu'on devra faire converger, mais qui, pour le moment, ne sont pas.
Jean-Baptiste Combi, lorsque Fatima Ouassak parle d'écologie de la libération, hein, une écologie qui doit légitimer tout le monde, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que, finalement, ça, c'est aussi une question pour les classes populaires ?
Oui, c'est-à-dire qu'on voit que ce qui est en jeu dans les rapports à l'écologie, c'est aussi les modalités d'intégration sociale. Des modalités qui sont plus ou moins chaotiques, plus ou moins teintées culturellement ou teintées économiquement, comme j'ai pu le dire. Et du coup, en fait, eh bien, c'est comme ça qu'on peut voir que aussi, les rapports de domination, ils s'enchevêtrent, et que les rapports de classe, ils sont évidemment étroitement articulés à des rapports de race, de genre, de lieu de vie, et qu'à chaque fois, en fait, on a des modes d'intégration différents, et que l'écologie vient soit les faciliter, soit les contrarier, en fait. Et c'est ça qu'il faut essayer de prendre en compte. Et que, du coup, en fait, ce qu'on observe, c'est que si on veut tendre vers une société écologique, il faut d'abord transformer en profondeur les modes d'intégration, de valorisation et de reproduction sociale des différents groupes.
Alors, concrètement, puisque ce sera ma dernière question avant de passer à celle des auditeurs et auditrices, comment on transforme précisément ? Quelles sont vos pistes, rapidement, pour bien comprendre, Éric
Eschiman ? Moi, ma proposition, elle est politique. Il faut construire un programme, une planification qui explique où des forces politiques... je vois plutôt des forces politiques de gauche, diront le jour où on est élu, voilà ce qu'on fera l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4, pour réduire les émissions de carbone pour la voiture, pour l'agriculture, pour l'industrie, pour l'habitation, le secteur de la construction.
Mais il y en a eu déjà des planifications.
Non. Il y a eu une esquisse de planification par Emmanuel Macron, mais qui en fait n'a pas donné de mesures concrètes, à part le leasing social sur 50 000 voitures, donc par exemple, les voitures électriques, comment on fait ? On crée un service public de la voiture électrique, avec 2 millions de voitures électriques, il y a des gens qui travaillent. Il faut faire des scénarios. Voilà, il faut scénariser. Alors, c'est pas... J'ai bien conscience que c'est pas le seul outil. Ouais. Mais je pense que scénariser, dire exactement ce qu'on va faire... en fait, aujourd'hui, les gens ne savent pas...
Il faut une feuille de route.
Claire. Exactement. Voilà.
Jean-Baptiste Combi, vous parlez de culture de la transformation, justement.
En complément, c'est-à-dire que ce que l'on observe, c'est que le monde social, tel qu'il fonctionne, nous éloigne d'une société écologique. Donc il faut d'abord transformer le monde social, le fonctionnement de l'école, le fonctionnement du marché du travail, la régulation du monde de l'entreprise, les choix de production, Éric en parle dans son livre, l'aménagement du territoire. Vraiment, les cadres fondamentaux de la vie sociale doivent au préalable être profondément transformés pour ensuite qu'on puisse faire de l'écologie d'une certaine façon. Ouais. Tant qu'on ne modifiera pas ces institutions sociales structurantes, on continuera à avoir des projets écologiques qui se briseront contre l'inertie du monde social. Et du coup, comment on fait ? Ben, il faut faire de la politique, effectivement. Il faut se poser des questions stratégiques.
Donc repolitiser vraiment la question.
Ouais, en posant la question des alliances de classe. Quels sont les groupes sociaux qui ont intérêt à cette transformation écologique? On voit qu'aujourd'hui, le capital économique, la bourgeoisie économique écrase la bourgeoisie culturelle. On le voit dans des lieux comme Radio France, on le voit à l'université où je suis. Et donc il faut que la bourgeoisie culturelle, que les forces culturelles politiques s'organisent pour reprendre la main, parce que c'est essentiel pour l'écologie.
Allez, on passe aux questions des auditeurs et auditrices.
Il
faudra qu'on reparle de Radio France. Hein, c'est une petite parenthèse, mais on n'a pas le temps malheureusement. Il y a plein de questions. Marie-Hélène nous dit, s'il vous plaît, trouvez-moi des politiciens écolos, pas radicaux dans leur parti. J'aimais bien Tondelier, dit-elle, mais elle me donne des boutons depuis qu'elle envisage l'écologie que de gauche et mélenchoniste. Les vieux capitalistes de droite ont une totale responsabilité dans la situation actuelle, mais il faut beaucoup avancer et avoir des écolos dans tous les partis. Éric Eschiman.
Ça, c'est une question. C'est quelque chose qu'on entend et il faut en tenir compte. Moi, je suis vraiment pour qu'on à la fois, je pense qu'il faut une feuille de route et en même temps, je pense que cette feuille de route, elle doit être discutée et être soumise à la discussion. Il y a des gens qui sont profondément rétifs et même horripilés à l'idée qu'on fasse de l'écologie politique. Il faut qu'on arrive à comprendre, parce que je suis sûr que si on poursuit la discussion avec cette dame, au final, on arrivera à un point d'accord.
Jean-Baptiste Combi.
Discuter, oui, mais je pense que l'écologie, elle remet en cause des intérêts sociaux très puissants et que donc, en ce sens-là, elle est politique et elle peut... Enfin, c'est des intérêts sociaux très puissants portés par les partis de droite que l'écologie, qu'une transformation écologique vient faire voler en éclats. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il y a de la conflictualité et qu'on n'y achèvera pas. Et la démocratie, c'est aussi du désaccord, c'est aussi du conflit.
Allez, on écoute le message vocal de Claire sur l'appli Radio France.
Bonjour, je m'appelle Claire, j'appelle de la Manche, la ville d'Avranches. Je trouve que souvent on raisonne un petit peu centré sur les problématiques de la ville. Dans mon territoire qui est rural, abandonner sa voiture, c'est pouvoir se déplacer pour pas être isolé dans les campagnes où bien souvent il n'y a plus de magasins. Or, il n'y a strictement aucun transport en commun, strictement aucune réflexion sur la mise en place des transports en commun. Qu'est-ce qu'on propose aux gens pour se déplacer ? Voilà, merci.
Question centrale, hein, Jean-Baptiste Combi.
Oui, l'aménagement du territoire, c'est essentiel. Mais cette question me permet de revenir sur un petit point peut-être de divergence avec Eric et sur cette opposition souvent qu'on a tendance à figer entre le rural et l'urbain. C'est vrai que sur l'écologie, des problématiques peuvent être différentes. Mais en fait, ces groupes populaires, qu'ils soient en territoire rural ou urbain, ils ont d'abord en commun d'être dominés. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Avoir aussi en tête que les populations racisées sont massivement en fait en territoire rural, contrairement des clichés qu'on peut avoir. Et dernier point, la place de la voiture. Certes, c'est une dépendance de subsistance en territoire rural, ça l'est moins dans les quartiers. Mais dans les quartiers, pour toute une jeunesse, la voiture, ça reste un symbole de réussite. Et donc ça reste aussi un enjeu important. Voilà.
Le message d'Adrien qui nous dit « Les élites écologistes font leur mea culpa, vous représentez une part infime des Français et vous réalisez maintenant que vos injonctions sont déconnectées des réalités que nous vivons, nous les petits de la France, des territoires, comme vous dites. » Éric Eschiman, vous lui répondez, Adrien ?
Alors, on n'a pas parlé de la France des territoires, mais c'est compliqué de... oui, on fait partie, en tant que journaliste, je fais partie d'une élite, au sens où c'est un monde numériquement réduit, et qui a accès à certaines facilités d'expression.
Oui, les classes dominantes, voilà, quoi, vous êtes.
Voilà. Mais ensuite, on peut, tout en étant dans cette position, être capable de réfléchir au plus large et de chercher la discussion, le contact, l'alliance, y compris avec, donc je ne sais plus le prénom de...
Adrien.
Avec Adrien, l'auditeur, parce que moi, mon idée, c'est qu'il faut vraiment qu'on discute avec tout le monde, y compris Adrien. En commençant par Adrien, j'ai envie de dire. En commençant par
Jean-Baptiste Combi.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Adrien. Je pense qu'il y a ce travail d'un peu d'aggiornamento, du mouvement écologiste qui est en cours, qui est souhaitable. J'ai fait une conférence gestituée avec Anthony Pouliquen, qu'on a intitulé « L'écologie sans lutte des classes, c'est du gaspillage ». Et on a dit que le slogan initial...
Ou du jardinage, selon les versions.
Oui, mais justement, en fait, on n'a pas choisi le jardinage parce que du coup, ça venait dénigrer le jardinage et donc c'était un mépris de classe envers les mondes populaires. Mais à l'inverse, il faut aussi faire peut-être attention et réfléchir aussi au stigmate du bobo qui est une figure repoussoire et qui est souvent répandue. Et en fait, ces stigmates, il faut les mettre de côté, passer au-dessus pour construire des alliances stratégiques et politiques.
Alors justement, à propos des bobos, on a un message de Léo.
Bonjour la Terre au Carré, c'est Léo dans le sud de Paris. En ce qui concerne les écolos, moi, je crois que leur gros problème, c'est qu'ils sont assimilés à la gauche. Aux bobos de gauche. Si les écolos n'étaient pas de gauche, je pense qu'ils auraient beaucoup plus d'écoute au niveau du peuple, des campings et des ronds. Voilà la Terre au Carré.
Alors c'est un petit peu le même argument qu'Adrien tout à l'heure. Moi, je veux, en prolongeant ce qu'a dit Jean-Baptiste, bien dire que le travail des gens qui sont en situation, des chercheurs, des journalistes, des militants, des scientifiques, qui par leur métier ont la chance de pouvoir construire des savoirs, les mettre en circulation, il a aussi de la valeur. Donc il ne s'agit pas d'opposer le terrain qui aurait raison, qui ne ment pas, contre des intellos qui sont coupés de tout. Il faut vraiment qu'on travaille ensemble et qu'on noue des alliances et que ça soit des deux côtés, même si la part de ceux qui sont en haut, la responsabilité est évidemment plus importante. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas opposer les deux catégories.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour prolonger la réflexion sur ce sujet. Les vipères ne tombent pas du ciel. C'est ce livre que vous publiez, Eric Eschiman, L'écologie au défi des classes populaires, au lien qui libère. Et puis Jean-Baptiste Combi, vous êtes sociologue, vous avez d'ailleurs beaucoup inspiré également Eric Eschiman dans son travail. Vous publiez, vous, l'année dernière, Écolo mais pas trop, les classes sociales face à l'enjeu environnemental. C'est aux éditions Raison d'agir. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus au micro de La Terre au Carré.
Merci.
Merci Mathieu.